en semaine dès 16h à Chez 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chez 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Bonjour et bienvenue à Question de savoir, l'émission d'éthique le supérieur de l'Université Laval présentée par Lali. Mon nom est Marie-Ève Duchesne et je suis attachée aux communications. Aujourd'hui, nous parlerons de la campagne du Centre de prévention et d'intervention en matière d'harcèlement, le respect, rien de moins, avec Perpétue Adité, vice-présidente aux affaires internes de Lali et doctorante en communication. Bonjour Perpétue!
Bonjour Marie-Ève, bonjour tout le monde.
Lydia Arsenault, qui est coordonnatrice aux opérations de l'organisme.
Donc, bonjour à tous et toutes. Merci de m'inviter à nouveau à Question de savoir.
Ça fait plaisir. Et Agathe Maviel, qui est vice-présidente logistique de l'APMAL, qui est l'association des participants à la maîtrise en administration.
C'est bien ça. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Donc, bonjour et bienvenue ou re-bienvenue à Question de savoir pour certains si c'est votre première expérience. Je vais tout de suite entrer en matière. Qu'est-ce que la campagne, le respect rien de moins et quelles sont les activités en lien avec cette dernière?
Oui, ben merci pour la question. La campagne Le respect rien de moins, en fait, c'est une campagne institutionnelle qui est propre à l'Université Laval. Donc, cette année, en 2020-2021, on en est à la quatrième édition. L'objectif avec cette campagne-là, en fait, c'est de parler du respect et du vivre ensemble sur le campus de l'Université Laval. Donc, ça s'adresse aux étudiants et étudiantes, mais également au personnel de l'université, ainsi que les personnes qui fréquentent le campus de l'Université Laval. Donc, on ratisse vraiment large et on tente de rejoindre un peu tout le monde avec cette campagne-là. Elle est orientée davantage vers le harcèlement psychologique. Donc, il y a trois objectifs principaux à la campagne, c'est-à-dire dans un premier temps de sensibiliser la communauté universitaire aux différentes formes que peut prendre le harcèlement. Dans un second temps, on souhaite promouvoir des comportements qui sont respectueux et exempts de harcèlement au sein, dans le fond, de chaque personne qui compose cette dite communauté universitaire-là. Et finalement, ben, d'habiliter les membres de la communauté à agir de manière civilisée lorsqu'une situation d'irrespect se présente. Donc, à chaque année, on présente un format d'activité qui est varié. Cette année, c'est la première année où on tente d'en faire une campagne annuelle, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des activités qui sont concentrées sur une semaine, ben on souhaite rappeler le message du respect rien de moins à différents points dans l'année scolaire pour rappeler que ça s'applique en tout temps et pas seulement pendant une semaine. Il y a déjà eu quelques activités qui ont été tenues cette année. Donc, l'émission Question de savoir en fait partie. Vous avez peut-être vu passer pendant la session d'automne une campagne de cartes virtuelles où on pouvait dire merci à nos collègues ou amis, à nos professeurs également, d'envoyer dans le fond une invitation pour prendre un café, prendre du temps avec nos collègues. Donc, toutes ces choses-là, dans le fond, font partie de ce qu'on considère comme étant le respect et la considération. Donc, toujours de mettre l'accent sur l'importance de se parler, de s'écouter, puis de s'accepter mutuellement là, dans nos différences puis nos défis.
Puis cette année, vraiment, le thème, c'était les saines pratiques de communication. Ça ratissait large, ça ratissait entre autres les communications en ligne, orales et écrites. la netiquette, la communication harmonieuse en période de stress, les marques de courtoisie et la cyberviolence ou le cyberharcèlement. Donc, c'est un peu ça le thème de la campagne cette année.
Bien, tout à fait. En fait, le respect, ça s'applique dans différentes facettes de notre vie. On est tous dans une même situation où les choses sont dématérialisées. On fait la majeure partie de nos communications en ligne pour le moment. Les cours sont en ligne, le travail est fait à distance également. Donc, tout ça, ben, ça ajoute un stress supplémentaire sur l'ensemble de la communauté universitaire et ça a une incidence sur nos pratiques de communication. Il y a plusieurs choses qui diffèrent entre les pratiques de communication en présentiel et celles qui vont être à distance ou écrites. Donc, on n'a pas les mêmes signaux. On n'est pas capable d'interpréter parfois le ton à l'écrit de la même manière qu'on pourrait l'interpréter en présentiel. Par exemple, des blagues qui peuvent se faire en présentiel par courriel, ça va porter à interprétation puis ça peut blesser l'autre personne. Donc, on s'est dit, ben pourquoi pas tirer profit de la situation dans laquelle on est pour améliorer tous ensemble nos pratiques de communication et rappeler, dans le fond, les petits détails puis les petites choses qui peuvent faire en sorte que tout se passe bien au plan des échanges plutôt que de créer des petits irritants supplémentaires là, dans le contexte actuel.
Parce qu'en période de confinement, est-ce que c'est plus difficile de communiquer avec des outils techniques? Je regarde Perpétue, je regarde Agathe. Est-ce que dans vos rôles, c'est plus difficile pour vous de faire de communiquer?
Mais je pense que c'est vraiment plus délicat parce que nous sommes toutes et tous derrière les écrans, que ce soit l'ordinateur, le téléphone. C'est assez délicat, je dirais, et je pense que l'attitude, la bonne attitude à avoir, ça commence déjà par l'empathie, ce qui est vraiment important, parce qu'il faut se rappeler que derrière l'ordinateur, derrière le téléphone, derrière juste ce nom que nous voyons, il y a une personne qui a des sentiments, il y a une personne qui a sa culture, une personne qui a sa manière de voir les choses, il y a une personne sensible. Donc, par exemple, ridiculiser quelqu'un, même quand on n'est pas face à face, ça peut vraiment frustrer, comme Lydia le disait tout à l'heure, des blagues que tu envoies à la personne, laquelle personne justement prend ça d'une autre manière qui pourra justement briser quelque chose au sein de cette personne-là. Donc je pense que l'empathie, c'est vraiment un élément important. Il faut vraiment respecter l'espace privé et l'espace de la confidence de la personne parce que tout le monde a des limites. On dit souvent que ma liberté se termine là où la tienne commence. Donc il faut vraiment respecter les personnes dépendamment de leurs origines, dépendamment de leur sensibilité. Il faut, surtout sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important parce que derrière juste ce nom qu'on voit sur Messenger, la personne a une attitude, la personne déjà, l'anxiété, le stress pendant le confinement, on le vit tous là. Donc, c'est pas vraiment évident. Moi, il m'est déjà arrivé qu'une personne m'écrive et à un moment donné, je ne répondais plus. La personne a demandé si elle en faisait de trop et j'ai dit oui. Ça commençait par me stresser justement. À partir de ce moment, il faut savoir où s'arrêter parce que c'est vraiment source de stress supplémentaire et c'est simplement du harcèlement. Mm-hmm. Donc l'empathie déjà pour commencer, la tolérance également parce que il faut tolérer, il faut comprendre que la personne qui s'exprime d'une certaine manière a quand même un certain bagage. Il faut pas rire pour rire parce que quand on fait les cours sur Zoom par exemple et tu interviens aussi du cours et tu vois un de tes camarades rire, tu ne sais pas de quoi cette personne-là rit. Donc, c'est des comportements qui peuvent frustrer. Donc, en toute chose, c'est vraiment adopter un code de savoir-vivre parce que avec le confinement et tout ce qui se passe actuellement, comme je le disais, c'est vraiment délicat.
Mmh, tout à fait.
Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Perpétue, je dirais pas que c'est nécessairement plus difficile, mais c'est vrai que c'est différent du fait du confinement et du Covid. C'est des pratiques qu'on a dû mettre en place assez rapidement, dans l'urgence. Parfois, c'est des choix qu'on a fait de ne pas avoir les réseaux sociaux, et là, on s'est retrouvé du coup confronté à l'idée que on est obligé de les utiliser pour pouvoir communiquer, ne serait-ce qu'avec notre proche, notre famille, mais également avec nos camarades de travail qui avant on pouvait les voir en présentiel pour la plupart. Maintenant, c'est vrai que ça a amène une nouvelle dimension qui parfois peut être un peu dure à impliquer dans la vie de certains, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément très à l'aise avec les réseaux sociaux ou les plateformes numériques. Échanger par message, comme on disait tout à l'heure, le ton peut être sujet à l'interprétation de chaque individu. Donc, faut faire vraiment avec beaucoup de tolérance. Et je pense que le mot-clé pour la maîtrise saine des réseaux sociaux, c'est surtout la bienveillance, être tolérant les uns envers les autres, savoir aussi que notre interprétation n'est pas forcément celle d'un individu. Donc, il faut apprendre à communiquer, beaucoup parler, beaucoup exprimer quand on ressent une situation de stress comme tu as vécu perpétué, afin qu'on puisse adapter justement nos communications et nos savoir-vivre, savoir-être et savoir-faire à cette nouvelle façon de faire nos cours et notre vie en règle générale.
Non, c'est ça, exactement. Puis c'est super intéressant, c'est super enrichissant comme comme discussion qu'on a là présentement sur les saines pratiques de communication. On a vraiment dû faire des efforts puis vraiment dû s'adapter. Je pense que tout le monde a connu une certaine adaptation avec les réseaux sociaux ou même encore avec les plateformes comme Zoom ou comme Teams. On vous revient, on va faire une petite pause musicale puis on vous revient, on va continuer là-dessus sur le sujet puis on va pouvoir continuer de parler sur les saines pratiques de communication puis quoi faire. On donne des petits conseils aux étudiants qui sont dans cette situation-là. On vous revient dans quelques minutes. De retour à Question de savoir, Lydia Perpétu et Agathe sont avec moi pour parler de la campagne Le respect, rien de moins. Une autre question qu'on peut se poser, les communications, ça peut avoir un impact sur la réputation d'autrui ou d'une organisation. Quelles sont les stratégies pour s'assurer d'avoir une bonne réputation puis pour la maintenir?
J'ai quelques points à propos de ce sujet. Je pense que toute organisation aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux et vraiment le développement du web 2, 3, 4, au fur et à mesure, c'est délicat de mettre en place, comme tu le dis, des stratégies. Je pense que dans toute organisation, c'est important d'offrir une formation aux employés, aux membres de cette organisation-là, pour les sensibiliser justement à l'utilisation adéquate et l'étiquette des médias sociaux. C'est important également de leur faire comprendre que c'est bien de respecter leurs obligations de loyauté, non seulement au travail, mais à l'extérieur de celui-ci. Et toute organisation qui se respecte doit mettre en place une politique de non-dénigrement, une politique d'utilisation des médias sociaux, rappeler régulièrement son existence à l'ensemble des employés et faire le lien avec les politiques de prévention et de traitement des plaintes de harcèlement. Il faut vraiment tenir compte aussi de l'évolution des innovations technologiques parce que ça évolue tout le temps. Il y a quelques années où on parlait plus de Facebook. Aujourd'hui, il y a plusieurs autres médias sociaux. Donc, on ne savait pas à quel moment votre employé peut, ou une autre personne justement dans le public peut dénigrer ou diffamer l'organisation sur les médias sociaux sur lesquels vous n'existez pas, par exemple. Et c'est important justement de rester à l'affût de ce qui s'écrit dans les médias traditionnels et les médias sociaux parce que ça bouge très vite là, ça évolue très vite. Quand quelque chose est diffusé sur Facebook, c'est comme une traînée de poudre. C'est vraiment important d'avoir une personne justement qui s'assure de collecter tout ce qu'il y a en rapport avec l'organisation et de faire un suivi assez efficace. Et en cas de toute situation justement à caractère diffamatoire, ou voilà, c'est bien de prendre des dispositions déjà pour rétablir les faits avec courtoisie justement, en ne diffamant pas également de personnes, documenter également rapidement tout ce qui se passe pour justement pouvoir anticiper sur les prochaines situations. Donc vraiment, voilà quelques astuces, stratégies là que je pourrais énoncer.
C'est vrai que les réseaux sociaux, la communication en règle générale est un outil très efficace pour une entreprise, mais qui est à double tranchant. Il est vraiment primordial de bien maîtriser et de faire attention aux messages qu'on communique, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant qu'entreprise. C'est pour ça que, comme tu le disais, Perpétue, faut une personne qui gère les réseaux sociaux et qui est capable de comprendre tout ce que ça implique, qui est capable de se rapprocher de la communauté et de voir aussi ce que les personnes qui suivent, qui achètent pour l'entreprise, qui font partie de cette entreprise attendent de la part de celle-ci. Une image peut être très vite impactée, ça peut avoir des impacts négatifs et positifs sur le commerce, sur l'image qu'on va avoir de l'entreprise, d'un individu, mais également pour un individu, ça va impacter également ses relations humaines, la façon dont il va communiquer. Et c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde est un peu sujet à une irréputation. On a tous une image par rapport aux réseaux sociaux des personnes qu'on suit ou des réseaux sociaux d'une entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui est à la fois incontrôlable, parce que c'est l'interprétation que chaque individu va avoir des communications. C'est pour ça qu'une entreprise peut facilement faire un bad buzz, parce que tout simplement, elle a réfléchi à certains aspects de la campagne que les utilisateurs ne vont pas forcément penser de la même façon, qu'ils vont pas interpréter de la même façon, et c'est souvent ça qui peut créer des différences de compréhension de messages. Je pense que pour une entreprise, c'est important qu'elle soit proche du coup de son auditoire, qu'elle échange avec eux, qu'elle soit réactive. Et pour un individu, je pense que c'est important aussi de savoir, par exemple, sur son compte personnel, ce qu'il souhaite partager ou non, pour faire de la prévention déjà vis-à-vis de lui-même, se protéger lui tout simplement, se dire: si je poste cette information sur mon réseau social, comment est-ce que cela va m'impacter? Comment est-ce que c'est nécessaire que je le partage? Est-ce que ça ne peut pas se retourner contre moi ou tout simplement me nuire? Parce que c'est vrai que quand on regarde les statistiques, ne serait-ce que du cyberharcèlement au Canada, il y a un jeune adulte sur 5 qui est victime de cyberharcèlement, ce que je trouve quand même très élevé comme chiffre. Donc c'est très important de faire attention à ce qu'on communique, la façon dont on communique et les messages qu'on souhaite véhiculer. C'est sûr que chacun est responsable de son comportement et de son interprétation, mais c'est la liberté de tous, mais il faut faire attention à ne pas dépasser les limites de certains.
Je trouve ça particulièrement intéressant, l'approche que vous avez. En complément, j'ajouterais qu'il faut également penser au sein de l'entreprise à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos murs. Donc, les communications entre nos employés, entre, par exemple, pour l'Université Laval, l'ensemble de la communauté. Donc, ça inclut les échanges par courriel, ça inclut des échanges sur les forums de cours, sur les différentes plateformes de communication qu'utilise l'université également. Donc, ça peut avoir un impact sur la réputation interne d'une entreprise ou d'une institution comme celle de l'université. Donc, d'où l'importance de porter attention dans le fond à comment on rédige nos courriels, par exemple, l'utilisation du caractère gras. Parfois, on peut se dire qu'on veut simplement mettre l'accent sur une portion du message, mais ça peut être reçu comme agressif. Même chose avec l'usage des lettres majuscules, le point d'exclamation peut être sujet à une interprétation. Peut-être qu'on souhaite exprimer de l'enthousiasme, mais que finalement, c'est reçu comme quelque chose qui est violent de l'autre côté de la communication. Donc, portez attention à ces petites choses-là. Perpétue parlait de l'application de règles claires pour les communications en ligne. Ça inclut également nos communications interpersonnelles. Il y a différents contextes qui peuvent permettre l'usage de certains modes de communication ou mise en exergue de portions de nos messages. Mais on communique pas avec nos amis ou notre famille de la même manière dont
on communiquerait avec notre employeur ou avec un collègue qu'on connaît pas tellement. D'un autre côté, quand on fait l'usage des réseaux sociaux, on peut faire des blagues ou des commentaires qui sont pas ciblés par une personne qu'on côtoie au plan professionnel, mais ça peut avoir un impact également si on a des commentaires suggestifs ou subjectifs sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, sur la situation de vie de certaines personnes. Ben, on ne sait jamais en fait toute l'histoire et le background que va avoir les personnes qu'on côtoie au quotidien. Donc, ça aussi, il faut y penser là dans nos manières de communiquer idéalement, parce que ça peut être vécu comme des comportements vexatoires indirects.
J'ajouterais aussi que dans cette réputation-là, il peut aussi avoir des photos. Si jamais vous connaissez des gens, il faut s'assurer d'avoir le consentement de la personne, un consentement éclairé et libre de la personne pour partager, par exemple, une photo que vous avez prise ensemble à pendant une rencontre ou quoi que ce soit, c'est de s'assurer d'avoir le consentement de cette personne-là, parce que on ne sait pas, cette photo-là peut avoir un impact sur la réputation, que ce soit positif ou négatif. Donc, c'est bien important, quand vous prenez des photos à des événements ou sur des trucs de réseaux sociaux, assurez-vous d'avoir le consentement des gens avec qui vous partagez cette photo-là.
C'est tellement subtil et mais très important ce que tu dis là, Marie, parce qu'aujourd'hui, on voit que les photos se baladent vraiment sur le net, parce que les gens ont la possibilité maintenant de prendre une photo et de l'interpréter d'une manière vraiment contraire au contexte de la prise de cette photo-là. On peut prendre ta photo et en faire une blague. Hein, tranquillement, tu es là, puis tu vois ta photo dans un groupe de blagues. Et ça a rien à voir avec le contexte. C'est des choses vraiment... il faut avoir la bienveillance, vraiment, comme tu le dis là, de demander le crédit, de partager, d'expliquer le contexte d'utilisation pour que la personne ne soit pas choquée après de voir sa photo hors contexte. C'est très important. Et également, que ce soit pour la photo, la vidéo, le son, c'est pareil, parce qu'aujourd'hui, tout peut s'exploiter à d'autres fins et ça peut engager, comme Agathe le dit, la réputation. On a tous une e-réputation aujourd'hui avec le Web.4, donc c'est vraiment important. Merci de le souligner, Marie.
Oui, ben, pour rebondir justement sur ce genre d'histoire, c'est vrai que pour nous, une photo qui peut nous paraître anodine et sympa à poster sur les réseaux sociaux, ça peut avoir des implications beaucoup plus larges pour des personnes. Par exemple, comme moi, je partage une photo avant le Covid en étant en soirée avec une amie, je me suis rendu compte que, par exemple, elle était avocate et que ce genre de photo peut, par exemple, lui porter défaut dans sa carrière professionnelle. Donc, c'est toujours important de déjà restreindre peut-être ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'a pas forcément besoin de voir toute notre vie et surtout, et c'est le principal, d'avoir le consentement de cette personne et d'être sûr que le partage de cette photo, cette vidéo ou n'importe quel média n'aura pas d'impact négatif sur la personne, sa vie professionnelle, personnelle ou même sa santé psychologique ou morale.
Puis, je vais poser une autre question qui va peut-être nous amener ailleurs. En situation de stress ou de crise, il y a certaines qui pourraient ressentir le besoin de s'exprimer sur Internet par des commentaires, des publications, quoi que ce soit. Comment s'assurer que c'est fait de la bonne façon?
Alors, je pense que déjà, quand on s'exprime, comme on le disait tout à l'heure, avec Perpétue, il y a de la tolérance et de la bienveillance à avoir. Comme le précisait aussi Lydia, c'est important de faire attention à la façon dont on s'exprime, aux mots qu'on emploie, aux caractères qu'on va employer. Au-delà de ça, si on parle de s'exprimer en situation de stress ou de crise, par exemple, je pense qu'il est important qu'on prenne du recul sur ce qu'on a réellement envie de formuler, ce qu'on a réellement envie de faire passer comme message, et est-ce qu'on le fait par le bon canal vers la bonne personne. Est-ce que, par exemple, s'énerver sur un coéquipier, ce serait pas déplacé, sachant que c'est le stress d'un autre cours ou d'une autre personne? S'assurer toujours qu'on s'adresse à la bonne personne et de la bonne façon. Il y a des personnes qui sont là pour nous écouter, suivant les situations. Et je pense que c'est important de se renseigner sur l'ensemble des ressources qu'on peut avoir. Les réseaux sociaux, c'est bien. Ça a beaucoup d'aspects positifs. mais ça peut aussi devenir une source de stress, une crise pour nous. Donc, je pense qu'il faut s'assurer aussi d'avoir un auditoire qui soit bienveillant, adapté et qui peut nous aider, nous apporter quelque chose, nous apaiser dans ce genre de crise ou de période un peu plus difficile.
Tout à fait. Puis, Lydia, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, ben c'est très complet déjà ce qu'Agathe a offert comme réponse. On observe en période de stress souvent nos besoins vont prendre le dessus sur les besoins de la collectivité ou du groupe. C'est tout à fait légitime et normal. Je pense que c'est un mécanisme de défense que tout le monde a dû expérimenter à un certain moment là, de son parcours universitaire ou de sa carrière. Donc, dans ces périodes-là, ben parfois on perd la perspective, dans le fond, de la cohésion de l'équipe ou du groupe. Donc, toujours se questionner, en fait, lorsqu'on envoie un message sur qu'est-ce que je souhaite atteindre en envoyant ce message-là comme résultat ou comme objectif. Donc, déjà, ça permet parfois de revoir la manière dont on va avoir communiqué nos émotions. Puis, c'est une autre portion très importante lorsqu'il y a un inconfort, de le témoigner dès le départ. Dans le fond, dès qu'on le ressent, cet inconfort-là, puis qu'il se présente à nous, de le signifier à l'autre personne. Parce qu'en période de stress, plus on accumule des inconforts ou des irritants, plus l'irritant devient grand, puis que finalement, l'issue qu'on entrevoit à la fin de tout ça pour régler un conflit qui, au départ, en était pas un, que c'était plus un malentendu, ça moindrisse, là, tu sais, on a moins d'options. Souvent, on est tellement dans l'émotion au moment d'aller chercher de l'aide et d'agir que on est rendu un petit peu trop tard dans le processus là pour vraiment pouvoir revenir à quelque chose qui va être 100% sain et naturel comme relation avec le coéquipier ou l'autre personne de notre entourage. Donc, dès que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui cloche, faites appel aux ressources qui sont disponibles. Parlez-en avec quelqu'un. Des fois, juste le fait d'en parler, ça permet d'avoir cette perspective-là globale de la cohésion de tous.
Puis on parle de ressources. Quelles seraient les ressources pour ceux et celles qui ont besoin d'en parler ou qui ont besoin d'en apprendre un peu plus sur les saines pratiques de communication?
C'est certain qu'au plan institutionnel, il y a toujours le CPIMH. Donc, peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire, cet acronyme-là qu'on utilise depuis le départ. C'est le Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement. Donc, même en situation où les services de l'université sont dématérialisés, on peut toujours nous joindre. On est disponible du lundi au vendredi de 9h à 16h30. On peut offrir différentes choses là, pour venir en aide aux personnes qui vivent une situation plus difficile au plan des relations interpersonnelles. On offre toujours de l'accompagnement qui est individuel. On peut vous aider à reprendre le contrôle de la situation en vous donnant des trucs de communication, entre autres. On peut vous soutenir dans différentes démarches, faire des rencontres, même parfois de conciliation avec la personne avec qui vous rencontrez un conflit ou une situation plus difficile pour faire en sorte que les attentes et les besoins de chacun, chacune soient partagés puis qu'on trouve une manière de naviguer au travers de tout ça. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire appel à nous.
Voilà, pour les personnes qui souhaitent se renseigner aussi par elles-mêmes sur comment communiquer efficacement sur les réseaux sociaux, la bibliothèque de l'université propose une liste de ressources, que ce soit des livres possibles de télécharger en ligne ou tout simplement d'acheter de votre côté, qui vont vous permettre de mieux comprendre comment bien communiquer avec son entourage, comment interpréter les signes de chacun, pratiquer la communication non violente par exemple, et tout simplement permettre de mieux s'entendre et de mieux communiquer plus efficacement et dans la bienveillance et le respect en ces temps qui sont changeant.
Puis je vais peut-être ajouter une autre source de l'Université Laval qui n'a pas forcément rapport avec le harcèlement, mais on est dans une période où le stress, la santé mentale, l'anxiété, donc le centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval, c'est vraiment une très bonne ressource. C'est vraiment un service gratuit et vraiment il n'y a pas de considération si vous sentez que ça ne va pas, si vous sentez que vous n'en pouvez plus, c'est le centre d'aide qui est là pour vous. Il y a des personnes qui ont reçu des formations adaptées justement pour vous accompagner justement en période de stress à mieux vous en sortir au cours de votre cursus universitaire. Donc, ne jamais oublier qu'il y a cette ressource-là qui est importante, qui est disponible, quelle que soit la situation, juste à leur écrire, expliquer la situation et vous aurez une discussion avec la personne habilitée selon votre situation. Et également, pas très loin, on a nos associations, on ne le dit pas assez, mais les associations également, que ce soit facultaires, départementales, de programmes, ce sont justement des personnes qui ont à cœur la cause étudiante. Donc, quel que soit l'enjeu, vous pouvez vous rapprocher d'eux et justement les associations pourront vous référer aux ressources pertinentes selon votre situation. Donc, ne jamais oublier qu'il y a des ressources qui pourront toujours aider, qui pourront toujours vous aider à vous en sortir parce que nous ne sommes pas seuls. C'est toujours bien de le rappeler.
Et bien sûr, l'Allié est là pour vous aider aussi. On a des gens qui travaillent pour vous et avec vous pour réaliser vos projets. Donc, le mot de la fin.
Alors, moi, je voulais juste rajouter que même si vous ne vous sentez pas concerné, pas forcément en situation de mal-être au sein de l'université ou de votre vie quotidienne ou professionnelle actuellement, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Votre entourage peut être en difficulté et je pense que c'est aussi le rôle de chacun d'être présent pour son entourage et voilà, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à être l'oreille dont notre entourage aura besoin et d'être bienveillant et comme ça devenir vous-même une ressource pour votre entourage qui se sentira très sûrement encore plus en confiance et encore plus soutenu d'avoir quelqu'un de proche, quelqu'un à qui parler. Et je pense que ça aidera beaucoup de personnes concernées à tout simplement aller mieux.
Tout à fait. Puis à ce sujet-là, il y a des personnes qui peuvent vous conseiller également au centre d'aide aux étudiants dans votre rôle de personne ressource ou de confiance pour quelqu'un qui vit une situation difficile. Si vous avez besoin de joindre le centre d'aide aux étudiants, vous pouvez les contacter au 418-656-7987 ou à l'adresse courriel accueil@commercialaide.com.